Chaque mercredi à midi, Tendance Ouest reçoit celles et ceux qui font l'actualité. L'invité du mercredi, avec la rédaction de Tendance Ouest.
Bonjour à tous. Demain, la France s'apprête à commémorer l'un des événements les plus tragiques de son histoire récente, le 13 novembre 2015. Une attaque terroriste à Paris faisait 132 morts et des centaines de blessés. Quelques mois plus tard, le programme 13 novembre était lancé sous l'impulsion du CNRS et de l'INSERM. Une grande étude co-dirigée par Denis Péchanski et vous, Francis Eustache, vous êtes neuropsychologue à l'Université de Caen. Le programme 13 novembre, qu'est-ce que c'est concrètement ?
Alors, le programme 13 novembre, en quelques mots, ce sont des recherches transdisciplinaires, c'est-à-dire qu'elles ont été créées par des chercheurs d'horizons extrêmement divers qui vont des neurosciences, la biologie, la médecine, mais également les sciences humaines et sociales, l'histoire, la sociologie. Donc ça, c'est un premier point transdisciplinaire, longitudinal, pendant 10, voire 12 ans. Et l'autre point qui est important, c'est qu'il va concerner des personnes extrêmement différentes. Des personnes qui étaient sur les lieux des attaques, au Bataclan, sur les terrasses, aux abords du Stade de France, mais également des personnes qui étaient beaucoup plus loin, voire comme des canets, des personnes qui étaient dans des villes éloignées, mais qui étaient des personnes qui étaient quand même concernées par ce qui se passait. Et ce sont comme ça 10 études qui sont lancées et qui vont essayer de comprendre les liens entre les mémoires qui se forment, les mémoires des individus singuliers, y compris les mémoires meurtries des personnes qui étaient au plus près des attaques, les mémoires de personnes qui ont perdu des proches, et puis la mémoire collective, la mémoire sociale qui change en fait en quelque sorte une société tout entière.
Donc la mémoire collective, c'est celle des canets qui n'étaient pas spécialement témoins des événements.
Alors, c'est celle des canets. Alors les canets, ils ont plusieurs rôles. Ils ont un rôle important parce qu'il y a plusieurs études qui concernent les canets. Ce sont les sujets contrôle des études biomédicales, les canets. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce sont ces canets qui viennent dans mon laboratoire, qui bénéficient d'examens psychologiques approfondis, d'examens d'imagerie cérébrale au centre Cicéron, qui joue un rôle aussi très très important dans ces études. Et puis, la mémoire collective ou la mémoire sociale, c'est aussi la population tout entière. Donc là, ce sont des grandes enquêtes d'opinion qui sont menées à 8 reprises. C'est-à-dire qu'on commence d'abord en juin 2016 et la dernière étude, pour l'instant, elle a été faite en juin 2024. Et tous les ans, on voit l'évolution de la mémoire à la fois du 13 novembre par rapport à d'autres attentats, la mémoire à l'intérieur du 13 novembre, la mémoire qui a tendance à devenir la mémoire du Bataclan. Alors quand on dit ça, ça veut dire que la mémoire, elle oublie, ou en tout cas elle met à l'arrière-plan les terrasses, les abords du Stade de France, avec derrière tout ça des personnes qui vont se retrouver exclues de la mémoire en quelque sorte, de cette mémoire collective. Ce qui est un problème, parce que pour aller mieux, ces personnes, elles ont besoin d'un soutien social, ça veut dire un soutien de leurs proches, mais elles ont besoin aussi d'une sorte de bienveillance sociale, une bienveillance de l'ensemble de la population. C'est pour ça que ces commémorations, elles sont importantes, même si elles sont dures par certains côtés, parce qu'elles réveillent évidemment l'émotion et la douleur de ces moments.
Pour faire ce constat, vous vous basez sur de nombreux entretiens. C'est depuis 10 ans maintenant presque.
Alors oui, les entretiens, ils sont un peu au cœur du dispositif, avec une étude qu'on appelle l'étude 1000. C'est tout simple, 1000, c'est 1000 personnes. 1000 personnes qui sont suivies, là aussi, à intervalles réguliers, c'est aussi une étude longitudinale. Et ce sont des personnes qui viennent de cercles différents, on les a appelés comme ça, il y a 4 cercles. Le premier cercle, c'est le au plus près des attaques. Au plus près des attaques, c'est le Bataclan, c'est les terrasses, c'est les abords du Stade de France. Et les personnes qui étaient là, mais également les personnes qui sont intervenues. Les pompiers, les policiers, les soignants, les politiques, le président de la République, le ministre de l'Intérieur font aussi partie de cette cohorte. Et donc il y a toute une dimension aussi science politique qui est extrêmement intéressante. Cercle 2 sont les personnes qui vivent dans les quartiers, cercle 3 la région parisienne, et cercle 4 c'est là qu'on retrouve Caen, et puis 2 autres villes, Metz, Montpellier.
Vous avez mené ces entretiens, les témoignages ils sont bouleversants à entendre.
Alors on a commencé l'étude 1000 à Caen. dans mon laboratoire et à Cicéron. Donc c'est là qu'entre guillemets on a un petit peu essuyé les plâtres avec les canets d'ailleurs, parce que les premiers entretiens il fallait les roder, etc. Je remercie encore tous les participants qui ont été d'emblée volontaires. Alors évidemment ce ne sont pas les entretiens les plus difficiles. Les entretiens les plus difficiles c'est évidemment ceux du cercle 1, sont ceux des personnes endeuillées qui sont parfois très très difficiles, très difficiles. Les gens qu'on cherchait leurs proches et puis qui sont arrivés dans les hôpitaux, c'est ceux-là qui sont les plus difficiles. Oui.
Ils sont aussi difficiles d'année en année.
Alors, de façon générale, c'est là que c'est toujours difficile de généraliser, parce que si vous voulez, quand les personnes qui vivent un trauma aussi grave, il y a plusieurs chemins. Il y a des personnes qui vont relativement vite faire face, pour des tas de raisons. Et puis, il y en a d'autres où le mal va s'installer, ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, et parfois il va se chroniciser. C'est-à-dire qu'on va voir les mêmes symptômes perdurer. Mais de façon générale, il faut être positif, et grâce au dispositif de soins, mais grâce aussi au soutien de tous. Hein. Je pense qu'il faut vraiment répéter ça. Cette mémoire traumatique, elle n'est pas oubliée. Hein. On n'oublie pas ces moments-là, mais elle est progressivement mise à une certaine place. Il y a tout de même une distance hein, à 10 ans. Là, on est à 10 ans. Chez beaucoup de personnes, fort heureusement, il y a une distance qui se fait. Mais par contre, le trauma, il n'est jamais très loin. C'est pour ça qu'il faut être très prudent face à ce type de questions. Il peut être réactivé, vous voyez, pour des raisons diverses. Donc, ce sont des personnes qui gardent ça au fond de leur mémoire, quoi.
Est-ce qu'en 10 ans, justement, ce programme a permis des avancées majeures ? Est-ce qu'on a appris des choses ?
Alors, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses sur ces intrusions, ces images qui viennent à la conscience des personnes et qui bouleversent les personnes et qui ont tendance à faire en sorte que le trauma reste là. Ça, on a appris les mécanismes qui ne fonctionnent pas, justement, quand on observe un trouble de stress post-traumatique. On l'a montré en imagerie cérébrale. On a montré aussi des mécanismes de résilience. Et le message positif de tout ça, c'est qu'on a montré une très grande plasticité du cerveau. Notre cerveau, il est sensible à ces traumas. Et effectivement, c'est quelque chose qui sont des gens qui allaient bien hein, et qui vont développer une psychopathologie parce qu'ils sont confrontés à ce trauma. Mais derrière, le cerveau peut se reconstruire, peut se réparer en quelque sorte s'il est bien pris en charge.
En quelques mots, quelle est la suite pour ce programme ?
Alors la suite, c'est la quatrième phase, 2026, 2027, 2028. Nous présentons devant un jury international à la fin du mois de novembre et j'espère que nous aurons les financements supplémentaires. Et puis ce sera l'analyse des données après 2028 qui continuera.
Eh bien merci beaucoup Francis Eustache d'avoir été notre invité.
Retrouvez l'invité du mercredi en podcast sur tendanceouest.com et vos plateformes préférées.